Bonjour et bienvenue sur Je vais au ciné. Et bonne année à tous.
Voilà. Bonne année.
On va faire ça tout le mois de janvier.
Bah ouais.
J'ai l'impression de déjà vu.
Oui, ouais, ça arrive. Antoine, bonjour à toi.
Bonjour à toi.
Bonjour.
Rebonjour, dirais-je.
Bah, si tu veux. Et bonjour à Mickaël qui est avec nous.
Bonjour.
Bonjour.
Qu'il est beau.
Oh, qu'il est beau, qu'il est beau.
Ah ouais.
Avec sa voix langoureuse.
Ah oui.
aujourd'hui, c'est moi qui vais vous faire une chronique et je vais vous parler de films d'animation japonais.
Ouais.
T'avais pas un son pour
non.
Pour Seb, non?
Ah mince, mais ça veut pas se lancer. Bon bah, ça sera tant pis, ça sera pour une autre fois.
Bon. Si vous avez écouté l'émission de la fin d'année sur nos tops et nos flops, vous avez peut-être pu comprendre que je n'ai pas aimé le film Lise et l'oiseau bleu. Ce n'est pas le seul film d'animation japonaise que je n'ai pas aimé, bien évidemment, mais je repense aux différents réalisateurs que j'apprécie particulièrement et qui ont réalisé des films qui ne m'ont pas plu. Je vais commencer par un réalisateur de génie, qui est Isao Takahata, par son film Mes voisins les Yamada. Il y a tellement de choses à dire sur ce film duquel j'ai arrêté le visionnage car le désintérêt que je portais sur cette œuvre était grand. Bon, faut reciter quand même que Isao Takahata a fait des très grands films. Il a fait Le tombeau des Lucioles, il a fait Pompoko, il a fait plus récemment La princesse Kaguya. Mais c'est un très très grand réalisateur qui a créé avec Hayao Miyazaki le studio Ghibli. Quand le dernier film... Déjà visuellement parlant, le trait de l'animation en elle-même est très simple. Dans le dernier film de même réalisateur, La princesse Kaguya est sorti, j'avais l'impression de revoir en partie l'esthétique de Mes voisins les Yamada, mais heureusement de meilleure qualité. Passons le côté visuel qui est discutable et passons à l'histoire. Eh bien, c'est pire. C'est pire car c'est une série de sketchs dignes des Bidochons. Et je suis pas fan des Bidochons français, ce n'est pas pour m'infliger la version japonaise. Non, je vais digresser deux secondes, mais pour vous parler d'une anecdote. J'ai rencontré lors d'un festival Yvan Wes-Lorenz, fondateur du magazine Animeland, qui est un magazine papier qui parle d'animation, et qui est co-auteur du livre Big Bang Anime. Nous avons discuté de Mes voisins et Yamada, surtout de nos films préférés, dans la carrière de Isao Takahata. Il m'a avoué que ce film était son préféré, car il est le plus proche de la culture japonaise. Je le conçois, mais... ce n'est pas la seule chose qui m'importe quand je regarde un film. Il faut qu'il m'apporte plus qu'un intérêt culturel. Il faut qu'il m'intéresse, qu'il me divertisse. Mais il ne fait aucunement ça pour moi. Il se veut drôle, mais il ne me fait pas rire. Il m'ennuie affreusement. Dommage. Je vous rassure, ce n'est pas le seul. Passons à Hayao Miyazaki, qui a réalisé Ponyo sur la falaise. Ce film parle d'un petit garçon qui fait la rencontre d'un poisson à visage humain. Fille d'un sorcier vivant dans l'océan. Le propos est écologique, comme souvent dans les œuvres de ce réalisateur, mais l'aventure de ces deux protagonistes n'est à mon goût pas très palpitante. Il me rappelle aussi un autre film réalisé auparavant par lui et qui est Princesse Mononoké. Je ne vais pas vous citer toutes les similitudes car nous allons manquer de temps, mais je peux vous rappeler que deux personnages venant de ces deux mondes différents s'associent entre une menace en partie naturelle qui est l'augmentation de l'eau dans Ponyo et qui est la maladie dans Princesse Mononoké. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire car l'aspect visuel n'est pas déplaisant hormis le poisson à visage humain que je trouve particulièrement moche. Vous pourrez regarder sur internet, il est rouge, il a une tête humaine, c'est pas terrible. Il est même plutôt monstrueux. Continuons sur Summer Wars de Mamoru Hosoda qui parle d'un informaticien qui doit gérer une cyberattaque d'un énorme réseau social. Malheureusement, il m'a perdu. L'histoire se veut moderne dans un décor de campagne japonaise et une technologie en avance, même encore maintenant sur son temps. Je n'ai globalement pas réussi à m'immerger dans ce film. Je l'ai découvert avec son précédent film, La traversée du temps, qui est palpitant, nous cueille dans une histoire où la technologie est aussi présente, mais pas incompréhensible et omniprésente. Depuis, il a sorti d'autres films qui n'ont toujours aucun rapport avec Summer Wars. Ce n'est un peu comme Isao Takahata avec Mes voisins et Yamada, qui est très différent de ce qu'a pu créer ses réalisateurs. Peut-être une erreur de parcours. De ces trois réalisateurs, j'ai continué à aimer leurs œuvres ultérieures sans problème, mais ces trois œuvres m'ont profondément déçu. Un réalisateur n'a pas encore réussi à me décevoir. Et vraiment, je le souhaite pas, c'est Makoto Shinkai, qui vient de sortir Les Enfants du Temps, que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir. Je vous en referai certainement une critique dans un prochain, dans une prochaine émission. Je pense que Michael ira le voir.
Oui.
Et on ira peut-être le voir ensemble.
Oh, sans faute.
Pour que vous compreniez de qui je parle, il a fait un certain nombre de films. Alors, je vais essayer de tous vous les citer. La Tour au-delà des nuages, 5 cm par seconde, Voyage vers Agartha, The Garden of Words et le magnifique Your Name. Alors, vous avez sans doute déjà entendu parler de ce dernier. Si ce n'est pas le cas, allez le voir après l'émission. Je vous le conseille.
Ah bah oui.
Pour le définir, c'est un réalisateur qui n'inclut aucun combat dans ses films. Il nous raconte une histoire qui nous transporte dans la psychologie des personnages. Ils vivent des aventures, des rencontres qui ne vous laissent pas indifférents. Pour le moment, et pour moi, il a fait un sans faute, pourvu que ça dure.
Mais oui.
Je vais revenir moins rapidement que la dernière fois sur L'Île des Oiseaux Bleus, quoique j'ai pas grand-chose de plus à en dire, de Naoko Yamada, que j'ai découvert avec son précédent film The Silent Voice. Un très bon film que je vous recommande chaudement. Ce film nous parle de handicap, de harcèlement scolaire, du regard des autres et du pardon, ce qui est un tour de force pour que ce soit un bon film. Et là, c'est un bon film. Et c'est en plus des sujets pas faciles à aborder. Quant à Lise et l'oiseau bleu, ça parle de la rivalité, de l'amitié de deux musiciennes et dans un orchestre de lycée. Il est lent et nous montre des scènes où la musique n'est même pas au cœur du film, mais anecdotique, jusqu'à une bonne moitié du film. Et les discussions entre les personnages sont dignes d'adolescentes, ce qu'elles sont, et sans profondeur, ce qu'elles sont aussi. À vrai dire, j'ai failli arrêter mon visionnage tellement je trouvais pas le film intéressant. Mika m'ayant fait une critique plutôt positive, je voulais le visionner avant ça et j'avais continué quand même. Au final, la fin reste assez obscure et nous apporte pas grand chose. Même Mika a tenté de me l'expliquer sans grande conviction. Et j'ai de loin préféré la chorale d'Akio Nishizawa et Piano Forest de Masayuki Kojima. J'ai du mal avec leur prénom, je m'excuse par avance.
Auprès de tous les Japonais qui nous écoutent.
Voilà.
Là, ils sont à deux doigts de nous envahir. Hein.
Qui parlent eux aussi de musique et qui sont des films d'animation japonais. Qui sont très bien, je vous les conseille si vous les avez jamais vus.
Globalement, en plus, il y a un souci avec le Japon en ce moment, donc si en plus t'écorches leur nom.
Ah bah oui. Globalement, Naoko Yamada n'a pas réussi à me convaincre sur ce film, mais je vais faire comme pour Mamoru Soda après Summer Wars, j'irai voir son prochain film avec plaisir, en espérant qu'elle fasse ou elle me fasse oublier ce film décevant. Voilà. C'était une chronique sur l'animation japonaise, ce qu'on ne fait pas souvent. Et on va s'écouter Yumi Arai pour le film Kiki la petite sorcière.
ママに会うために今一人列車に乗ったの黄昏迫る街並みや車の流れ横目で追い越してあの人はもう気づく頃よバスルームにルージュの伝言浮気な恋を早く諦めない限り家には帰らない不安な気持ちを残したまま街はママから電話で叱ってもらうわ My darling
Nous sommes sur Je vais au ciné.
Vous êtes bien sur Studio Zef.
Détendez-vous, ça va bien se passer.
On va parler d'un réalisateur qui est Steven Spielberg. La semaine dernière, on a fait Robert De Niro. Là, on va parler d'un réalisateur qui est Steven Spielberg.
Robert De Niro, cette semaine.
Le grand Steven Spielberg.
Le grand Steven Spielberg, qui a fait plein de films. Alors, je vais vous citer Indiana Jones, Les Dents de la Mer, Arrête-moi si tu peux... qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Jurassic Park, La Liste de Schindler.
Il faut sauver le soldat Ryan.
Il en a fait pléthore. Et plus récemment, Ready Player One. C'est un grand réalisateur. Enfin, en tout cas, il a fait des très grands films. Il a fait des moins bons films,
comme tous les réalisateurs, mais il a plus rien à prouver.
Voilà. Comme j'ai pu le faire sur ma précédente chronique, il y a toujours des ratés.
On va parler de dérapage.
De dérapage.
Dérapage, je sais pas si la transition.
Pour Duel, ça passe. Moi, je valide.
Tu vas nous parler de Duel.
Donc, je vais vous parler de un de ses premiers films, téléfilm. Donc, téléfilm aux États-Unis, pour la chaîne ABC, dans la case téléfilm, quand même à gros budget.
Oui. Un peu de sous, quand même.
Un peu de sous, voilà. Film de 74 minutes et au vu du succès qu'a eu ce film, ils ont décidé d'en faire une version un peu plus longue qu'ils ont en Europe, en tout cas dans certains pays d'Europe, dont la France, sortie au cinéma. Et donc nous en France, la version qu'on a eue, c'est la version de 90 minutes, sachant que, pour faire simple, toutes les scènes de dialogue, en fait, sont des scènes qui ont été rajoutées. Et il y a une scène aussi où, à un moment, le camion pousse la voiture contre un train, et celle-là n'était pas dans le film d'origine. Donc l'histoire est assez simple, en fait. On suit, en caméra subjective, on voit un homme qu'on ne voit pas à l'écran. Quitter son pavillon d'une banlieue américaine classique, traverser une ville, la traversée de la ville va aider à la mise en place du générique, et une fois qu'il va se retrouver dans le désert montagneux californien, donc on va voir ce personnage. Donc ce personnage, l'acteur, c'est Dennis Weaver, un acteur qui était plus ou moins connu à l'époque, mais bon,
un peu moins connu maintenant,
je connais pas du tout, qui va se retrouver donc coincé derrière un camion, donc un gros camion américain, comme on les imagine. Les problèmes vont arriver quand tu vas commencer à le doubler. Donc pour faire simple, on est sur un film concept, hein, c'est un road movie d'horreur, avec une mise en scène assez radicale et épurée, et peu de dialogue, donc on peut voir le film en VO sans les sous-titres. Moi c'est ce que j'ai fait, et franchement le concept du film marche. Donc moi, ce que j'ai aussi aimé dans ce film-là, c'est que ce film sortirait aujourd'hui, on aurait droit à des suites, on aurait même eu droit à une préquelle sur le camion, pourquoi est-ce qu'il est méchant, pourquoi est-ce qu'il veut tuer la voiture, sur l'enfance du camion, pourquoi il est tombé du côté obscur, de la rouille.
Est-ce que c'était sa première fois?
Il semblerait que d'après la mise en scène de Spielberg, le camion est filmé en gros plan, en fait, et on voit à l'avant, sur la calandre avant du camion, différentes plaques représentant les différents états des États-Unis. Et Spielberg expliquait que ça pourrait prendre ça comme un tueur en série, en fait, et chaque plaque correspondrait à un état dans lequel il a tué une personne. Et donc le parti pris de Spielberg est de ne jamais montrer le chauffeur du camion. On va, dans la première partie du film, voir seulement quelques éléments, donc un bras avec une montre et une paire de Santiago. Et à un moment, une scène qui se passe dans un diner où le personnage principal pense avoir réussi à échapper au camion, se repose, décompresse, réfléchit à ce qui lui arrive et en regardant par la fenêtre, se rend compte que le camion est sur le parking et se dit donc que le chauffeur du camion se trouve dans le bar. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que nous, on n'en sait pas plus que lui. Donc, on est incapable de savoir qui est le chauffeur. Et on a comme lui les seuls indices que lui a au moment de la scène, donc c'est-à-dire une paire de Santiago et un bras avec une montre. Et forcément, il y a des gens qui ont des Santiago, il y a des gens qui ont des montres. Et en plus, ce qui est assez rigolo, c'est le personnage. Donc, je ne sais plus comment... ouais, le personnage s'appelle David Mann. Donc Mann, ça s'écrit M-A-2-N. Alors, Mann, c'est aussi l'homme en anglais avec un seul N. Donc c'est vraiment la personne lambda.
Il aurait pu s'appeler John Doe. Ou
voilà, c'est ça. Ou
John Smith.
Ou Jean-Jacques Person. Ouais. Ça aurait été pareil. Et donc il se retrouve face à ces cow-boys, cet archétype du cow-boy américain musclé, qu'il ne faut pas emmerder sinon ça dégaine à tout va. Et lui, il est plutôt freluquet, petite moustache, sa cravate. On sent qu'il ne va pas faire le poids.
C'est la profondeur de l'Amérique face à la ville, quoi.
Et donc, moi, j'ai trouvé ce film assez excellent. Et alors, effectivement, on pourrait croire que c'est un peu débile de voir deux voitures faire mumu sur le bord de la route. Hein. Il y a Fast and Furious, un camion et une voiture. Il y a Fast and Furious, mais il y a aussi Mad Max Fury Road. Hein. Ne l'oublions pas, celui-là. Le meilleur film de la décennie.
Ouais, enfin, c'est l'inverse. C'est le camion qui est poursuivi.
Ouais, mais c'est des genre si tu vois ça d'un côté, tu vois, si t'es pas intéressé, tu dis ouais, voilà, c'est bon, c'est des voitures qui font mumu.
Ce qui fait tout l'intérêt des films, c'est la réalisation. C'est pas l'histoire en elle-même, c'est plus la réalisation et comment les personnages réagissent ou le jeu d'acteur qui est intéressant.
Et la force aussi du film, c'est que Spielberg n'explique rien. Donc, ouais. À travers ce film, on peut y voir un peu ce qu'on veut. Donc, on peut y voir l'oppression de l'homme sur la femme, ou même par rapport à cette scène du diner, l'homme avec un grand H sur l'homme avec un petit H.
Ou la campagne et la ville.
La campagne, voilà. On peut y voir ce qu'on veut, ce qui fait que même encore à regarder maintenant... ça marche, en fait. Donc, pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, et je pense qu'il y en a beaucoup... je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui ont vu tous les films, enfin une grande partie des films de Spielberg. Surtout si vous avez vu Les Dents de la Mer ou Jurassic Park, hein, qui sont des films de monstres, parce que Duel, c'est aussi un film de monstres, quelque part. On a la naissance d'un grand qui, plus tard, va délivrer des chefs-d'œuvre. Et je pense que pour la culture personnelle, c'est intéressant à regarder. Voilà. Oui. Donc, on peut le trouver sur YouTube.
Et puis le camion en lui-même, c'est déjà un personnage. Je pense que ça a vraiment inspiré King pour Maximum Overdrive, qui est très mauvais, mais qui est vraiment un...
Je pense que ça a inspiré beaucoup de gens. En fait.
Ça a inspiré beaucoup de gens.
C'est un concept, et un concept qui marche. Donc forcément,
simple, qui marche, et qui est bien exécuté. Donc effectivement, voilà.
C'est Spielberg.
Bon. Spielberg.
Et en plus, les dernières choses, donc, parce qu'on parle souvent de Spielberg et Williams. Donc à l'époque, Spielberg n'avait pas encore rencontré Williams. Et ça n'empêche pas la bande-son d'être bien, être collée à l'image du film, en fait. Pas de... comme quoi, le génie des deux, au final, c'est peut-être Spielberg.
Conclusion. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter?
Oui, moi je vais parler quand même du côté que tout le monde connaît de Spielberg, le roi du divertissement quand même, parce que c'est un peu pour ça qu'on le connaît, avant qu'il se mette à faire plus de films politiques avec plein de guillemets, disons.
Plus engagé, peut-être.
Engagé, voilà, c'est un meilleur mot. Au travers de Ready Player One, qui est son dernier film, et je trouve que Ready Player One est un cas intéressant, parce que le mec, il a quand même 73 balais, et il arrive à te pondre des trucs comme Ready Player One, qui sont... en fait, c'est un film où tu verrais personne d'autre que Spielberg faire ce truc. C'est tellement... La quintessence du style de Spielberg tout en ayant une part d'invention. Je crois que le film a poussé le concept du fanservice sans que ce soit vraiment du fanservice, parce que tout sert à propos de l'histoire. Il y a chaque emprunt à des licences de culture pop, il y a rien qui est gratuit, tout a une explication, tout est utilisé dans l'histoire. Et je peux pas m'empêcher de voir ça comme Spielberg qui donne des leçons aux petits jeunes quoi de d'Hollywood en disant voilà, vos bouches. Le patron vient de rentrer. Voilà, c'est comme ça qu'on fait un film de divertissement, les mecs. Des questions.
De toute façon, il fait partie de la culture pop. Enfin, je veux dire, c'est un personnage en tant que tel. C'est pas. Il est plus que légitime pour faire ce genre de film.
Ah, il est totalement légitime. Est-il nécessaire de rappeler que le premier blockbuster, c'est lui?
Oui.
Voilà, donc, voilà, partant de ce principe-là, c'est le taulier.
Oui. C'est voilà.
Non, puisque
ça lui correspond bien.
Moi, ce que j'avais aimé avec avec Ready Player One, et en fait, c'est ce que je reproche à, au Marvel, en fait, au film Marvel, c'est que le cinéma, c'est de l'artisanat. Enfin, quoi qu'on en dise, malgré le coût des films, utiliser une caméra, il faut la savoir, il faut le connaître. Et en fait, plus on apprend, plus on sait. Et que ce soit George Miller ou Spielberg, qui ont entre 70 et 80 ans, les mecs, ils ont fait des films et bam, ils imposent. Et c'est ça que je regrette, moi, avec Marvel, c'est qu'ils prennent des jeunes, qu'on fait un film un peu un télo underground ou qui a marché, qui a fait parler d'eux. Allez, on vous donne les rênes pour faire un blockbuster et souvent.
Ouais, mais le problème, c'est que le problème de Marvel, c'est qu'ils prennent des yes man, ils prennent pas des réals.
Oui, oui, oui. Voilà. Oui, mais souvent.
Si c'est un réal qui a de la personnalité, il reste pas.
Ça dépend, parce que des fois, ils prennent des gens qui ont fait un ou bon film, parce que pour un nom, en fait, ils prennent le nom.
Pour le nom, ouais.
Pour le nom, mais ils prennent pas non plus n'importe qui. Enfin, toi.
Bah non, ils prennent pas n'importe qui. Bah, ils ont les réalisateurs. Qu'ils soient d'accord aussi.
Ils ont les réalisateurs de leur écurie, hein, avec en tête Jon Favreau. Jon Favreau, c'est le réalisateur Disney qui a fait je sais pas combien de films sous la bannière de Disney.
Dont Le Roi Lion récemment.
Dont Le Roi Lion, mais il a fait aussi. Les Iron Man et plein d'autres trucs. Et il n'est pas bon. Il n'est pas bon, je suis désolé. C'est un yes man. Il n'a aucune personnalité.
C'est quoi que tu appelles yes man?
Bah, qui dit oui à tout.
Il dit oui à tout. D'accord. En fait, c'est des films de producteurs. Le réalisateur est juste là pour tenir la caméra. Quoi.
Ouais, pour être sur le tournage. Quoi.
Voilà, c'est ça. Et là, clairement, Jon Favreau, c'est ça. Il n'est pas bon. Il faut arrêter. Et en acteur, il n'est pas bon non plus. Mais voilà, quoi. Mais il fait le taf que les producteurs lui demandent. Donc, c'est pour ça qu'on le voit. On le voit partout et que c'est pour ça que c'est lui qui a The Mandalorian, là, la série sur Disney+. Voilà, c'est ce genre de personne qu'emploie Disney.
Oui, oui, tout à fait.
Ils n'emploieront jamais un Spielberg ou un George Miller.
Bah, quelqu'un qui a une
pas
vision.
Quoi. Voilà, c'est pas la peine.
Voilà, que dire de plus ? C'est un grand réalisateur qu'il nous...
Et un grand producteur qui nous a permis de découvrir Transformers par Michael Bay.
Mais oui, mais oui.
Non.
Mais oui, la mascotte de l'émission.
Mais je sais pas s'il fera encore beaucoup de films. Il est quand même voilà, il a des films encore, enfin un film encore en préparation. Mais après, je sais pas s'il fera encore.
Non, mais c'est.
Ah bah c'est sûr que sa liste elle est plus longue devant que, enfin derrière que devant. Mais bon,
clairement Steven Spielberg fait partie des mecs qui n'arrêtent. Voilà. Qui arrêteront quand ils seront clamsés. Hein,
bah, ou quand ils pourront plus. Quoi. Quand
ils, une fois qu'il aura accumulé suffisamment de points, il se mettra à la retraite. Hein.
Je pense qu'il a ses points.
Il a ses points.
Je pense qu'il a ses points, mais alors, en plus, très largement.
Il a 5% du premier film Star Wars qui lui ramène suffisamment d'argent tous les mois.
Carrément.
On va enchaîner sur une musique qui est la musique d'Amarcord de Nino Rota.
Oula! Thank you. problème, c'est ce
nous
sera son film maudit.
Sur Je vais au ciné.
À quand Xavier Nolan sur un Star Wars?
Jamais. Trop de personnalité.
Qui va nous parler d'un film là?
Moi.
Allez Antoine.
Je crois qu'on peut pas passer à côté, hein. La mascotte de l'émission. Michael Bay. A sorti un nouveau film disponible sur Netflix. Donc, bon, je pense que les fans de Michael Bay l'ont vu déjà, les autres l'ont complètement ignoré.
Ou ils ont pas Netflix.
Alors, je vais vous lire le speech de Wikipédia. Donc, un mystérieux milliardaire est à la tête d'une unité d'élite secrète. Déjà là, ça envoie du rêve. Déjà là,
on est sur la série B.
Voilà. Ben oui, B.
Excellent.
Michael, il fait que du série B. Composé donc de lui-même et de 5 autres membres ayant toutes simulé leur propre mort.
Ok, là c'est la série Z.
Ces fantômes ont pour mission d'éliminer les plus puissants criminels et dictateurs dans le monde. Alors déjà, c'est le film politique de Michael Bay. Déjà, il a découvert.
Ça ne veut pas dire grand-chose.
Il a découvert qu'il y avait autre chose que les États-Unis. Et le premier drapeau américain intervient bien longtemps dans le film. J'ai pas chronométré, mais j'ai été surpris moi-même de le voir aussi tard arriver. Alors, après un synopsis de qualité, quels sont les acteurs? Donc le chef de la bande, alors c'est assez facile parce que les personnages n'ont pas vraiment de nom. Donc le 1, le chef, c'est Ryan Reynolds. 2, c'est Mélanie Laurent. Donc qui est plutôt pas mal parce que c'est pareil, il a découvert qu'il existait d'autres langues et elle a 2-3 des réflexions en français en fait et qui sont plutôt bien amenées et franchement d'habitude je l'aime pas elle.
Bah, elle peut être bien mais
comme elle a un second rôle au final
ça passe.
Elle peut être bien mais elle l'est pas toujours, enfin elle est rarement même.
Donc voilà, après c'est les plus connus. Après les autres, voilà, il y a 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Bon, là, aucun suspense, hein, on est dans le numéro du film. Alors,
il s'est fait chier pour les noms, hein, quand
non,
même.
Les premières scènes, la première scène qui se passe à Florence, franchement, elle fait mal. Moi, j'ai pas du tout aimé, ça va trop vite,
c'est moche.
Ouais, non. Bah, moi, je sais pas, non, parce qu'en fait, Michael Bay, il a ce talent, hein.
De
savoir rendre les choses belles. Donc moi je dis, à quand un film sur les nazis? Il va pouvoir nous faire aimer les nazis, monsieur.
Premier point Goodwin de l'année.
Ouais. Et franchement, c'est beau. Mais en fait, c'est le montage un peu épileptique, 2 plans par seconde, 2 secondes par plan, ça fait mal à la tête.
Et aux yeux, peut-être.
Non, mais moi j'ai failli arrêter. Alors une fois, bon, on va faire un point musique direct, comme ça on n'en parle plus, c'est à chier. On regarde pas.
Il y a des musiques dans les films de Michael Bay, j'étais pas au courant.
Les musiques d'ascenseur, elles sont mieux.
Non, mais notable, peut-être, non?
Non, même pas. Il y a 2-3 chansons. Alors, la scène d'ouverture est grandiose parce qu'ils se font. Donc, c'est une course-poursuite dans Florence. Mélanie Laurent est en train de se faire opérer à même le siège de la voiture parce que dans une scène avant, elle s'est fait tirer dessus, donc elle est blessée. Mais comme c'est la tireuse du groupe, faut qu'elle tire. Mais en même temps, faut qu'elle se fasse opérer. Enfin, bon, voilà.
Oui, c'est du grand Michael
Bay.
C'est du
grand Michael Bay.
Série Z.
Mais en fait. Moi là, non, mais pour être sérieux quelques instants, la scène à Florence, moi, elle m'a vraiment énervé. S'il n'y avait pas ma femme qui m'a dit « Allez, on continue », je pense que j'aurais arrêté. Et après, il y a une scène qui se passe aux quatre coins de la planète. Mais dès qu'on arrive sur le bateau, certains diront c'est un peu le milieu ou la fin du film. Mais j'ai trouvé que là, c'était hyper intéressant et justement il enlevait un peu tout ce qui fait l'éthique de sa réalisation. Alors ça reste très rapide et très nerveux, mais j'ai trouvé qu'il y avait des mises en scène dans la mise en scène il y avait des idées en fait. Alors attendez, on n'est pas dans Duel de Spielberg, hein, faut pas non plus
on en est loin,
mais il y a en fait ils ont c'est une espèce de, on se retrouve dans une formule à James Bond en fait, où ils ont des gadgets et dans l'utilisation des gadgets, moi j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient franchement sympas et qui fonctionnait en fait. Et j'ai effectivement pleuré la scène à Florence, mais après, ça va mieux, et moi, il m'en reste au final une bonne impression de ce film. Donc, je regrette un peu qu'il ne soit pas sorti au ciné, parce que forcément, ça explose dans tous les sens, donc c'est toujours agréable. Mais bon, c'est sur Netflix, voilà. Franchement, c'est un bon pizza movie, un bon divertissement. Je le conseille.
Bon, bah on ira voir ça. J'espère que c'est si bien que tu le...
Non, non, mais c'est nul, hein. Attendez, faut pas... c'est une belle merde, hein. Mais moi j'ai pris du plaisir à le regarder, donc quelque part, je trouve... J'ai pris plus de plaisir à regarder ça, Six Underground, que le dernier Star Wars, par exemple. Mais...
Le but n'est pas le même.
Le but n'est... Oui, non, mais si, c'est de prendre du plaisir pour des films de divertissement. Oula, je sens qu'il y a des soucis dans la technique, là, je vois...
Non, mais il y a un micro qui ne marche plus très bien.
Allô. C'est le tien. Allô, allô. Ah oui. Ah oui.
Ouais, c'est mieux.
Ouais, c'est mieux. Je voilà. Ne m'entendais plus.
Ben, c'est normal, il grésille.
Vous étiez où ?
Voilà, eh ben, on va finir là-dessus. Et puis on se retrouve la semaine prochaine.
On finit sur la minute Michael Bayesque.
Ouais. Putain, passé de Spielberg à Michael Bay.
Eh, mais...
transition.
Transition, oui. Parce que mine de rien, Michael Bay, s'il continue à produire des films, c'est parce que Spielberg est derrière. Hein.
Ouais. En tout cas, s'il y a eu Transformers, c'est que Spielberg a été chercher Michael Bay.
Ouais.
Et
il a besoin de thunes pour faire des films un peu plus intéressants.
Bah, et puis, non, même pas, il savait, attends.
Il savait que les gens allaient le voir et que ça allait faire du pognon.
C'était, c'était des jouets, donc.
Oui,
bah,
mais il savait que ça allait faire du pognon, donc.
Il a fait du pognon.
Voilà, il fait du pognon.
Il a, fait
il a compris depuis Star Wars que, en fait, c'est bien les jeux. Oui. Voilà. Bon, bah. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.